Et vous êtes bien sur France Culture. Au troisième jour de notre série consacrée au marquis de Sade, nous parlons de lui en rapport avec les femmes et à présent en rapport avec sa femme à lui. Nous sommes avec Cécile Guilbert qui nous a rejoint. Elle a édité avec Pierre Leroy le volume intitulé 50 lettres du marquis de Sade à sa femme aux éditions Flammarion en 2009.
Quand recevrai-je une lettre de toi ? Quand reverrai-je ce style naïf et doux, image de l'âme la plus tendre et la plus sensible ? Quand reverrai-je, au lieu de cet échafaudage alambiqué d'un sentiment qui n'est pas le tien, ces phrases délicates et sincères auxquelles je ne me tromperai jamais ? Traité de délit et de peine. J'ai une envie de vous grondez, étonnante, cette manière dont vous enfilez, qui ne dit mot est affreuse, et en vérité passe tout ce qu'on peut imaginer avec vous. On ne sait jamais ce qu'on peut croire, et cela est atroce. En réfléchissant, je vois que ça n'est pas étonnant. Vous vous êtes fermé avec moi depuis le temps que nous ne sommes plus ensemble. Cependant, je vous l'avoue, je ne vois point de motif à votre conduite, et vous êtes la plus singulière des femmes. Vous imaginez, vous, que je vous pardonnerai tout cela? Vous pensez bien que je dois être très ulcéré de votre conduite à Dieu. Je suis ce soir d'écrire en train comme une bête, comme un âne, comme un étalon espagnol. Ainsi, je vous salue, venez me voir, je vous en prie, venez quand vous voudrez. Vous me faites toujours plaisir et honneur. Et vous pouvez être sûr que malgré tout le chagrin que vous me donnez, vous serez bien baisé, oui, baisé de toute mon âme.
Une lettre à double sens de Sade à sa femme en 1778, lue par Daniel Mesguiche. Bonjour Cécile Guilbert.
Bonjour.
Vous qui connaissez bien Sade, qu'avez-vous pensé de ce qui s'est dit dans cette première partie d'émission? Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose ou nuancer ou donner votre opinion?
Ce que je pense, c'est que en fait, contrairement à ce qui est raconté souvent sur Sade, c'est que finalement, il s'inscrit bien dans le fond de ce que j'aime moi, en tout cas dans la littérature. Je parle pas en savante, si vous voulez, je parle en quelqu'un qui aime la littérature du XVIIIe siècle et les romans libertins. C'est qu'en fait, il s'inscrit dans ce courant général, même s'il a des positions plus radicales et une singularité littéraire tout à fait spécifique, parce que en fait, il est intéressé par l'émancipation des femmes aussi, comme tous les autres.
Et le fond, c'est votre conviction.
Oui, c'est-à-dire que c'est la grande question au XVIIIe siècle, qui est si passionnante, de l'éducation des femmes, et qui court en fait partout, qui court de Boyer d'Argens à Mirabeau, en passant par et jusqu'à Laclos, l'éducation des femmes, qu'on a relu d'ailleurs ces temps-ci, justement à la lumière des événements, MeToo, tout ça. Donc à ce point-là, qui est très important, et qui en fait un vrai philosophe de son temps, dans ce courant. Et puis il y a, en fait, je pense que comme tous les vrais libertins, et c'est là où c'est le plus réussi en général dans les romans, c'est qu'en fait, dans la vie sans doute, hein, plus que dans les livres évidemment, mais il cherche en fait un rapport d'égalité avec les femmes, un rapport de connivence libertine. Et c'est pour ça que dans sa biographie, c'est si intéressant de voir quand il est tombé amoureux et qui il a vraiment aimé dans sa vie. Parce que justement, à chaque fois, il me semble, les deux grandes figures, sa fiancée avant de se marier, Chronée Pélagie, cette pauvre femme, qui est aussi héroïque dans son genre, mais cette première fiancée avec qui on lui fait rompre ses fiançailles pour épouser Renée Pélagie, et sa belle-sœur, la femme, c'est des femmes qu'il a vraiment aimées, et d'après ce qu'il écrit, d'après ce qu'il en dit, d'après ce qu'on a retrouvé dans les lettres, qu'est-ce qui lui plaît chez ces femmes? Eh ben, c'est qu'elles sont hardies, libres, à la fois éduquées, et donc, je pense que là, il pense, outre qu'elles sont sans doute séduisantes physiquement, il va pouvoir peut-être avoir avec elle un rapport d'égalité connivante. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant.
Mais du coup, dans la relation interpersonnelle, mais en revanche, il n'y a pas de pensée qui irait contre la domination masculine chez Sade. Autant lui, et on le comprend, préfère parler d'égal à égal avec une femme, autant, enfin pour l'aimer, autant il ne va pas théoriser le dissemblable en termes de pouvoir qu'il y a entre les sexes.
Oui, bien sûr qu'il théorise une forme de domination masculine, mais il me semble que dans l'amour et dans le sexe, finalement, on peut passer par toutes sortes de positions et être à la fois homme et femme, chacun pour chaque sexe. Donc c'est ça, c'est cette circularité que je trouve voilà, intéressante.
Alors, vous avez donc édité ces 50 lettres du Marquis de Sade à sa femme. Elles n'y sont pas toutes, hein, puisque non. En 1949, Gilbert Le Lis avait lui-même publié 250 lettres du Marquis de Sade à sa femme. Vous avez donc fait un choix.
Non, en fait, si vous voulez, comme j'ai fait ce livre avec Pierre Leroy et que Pierre Leroy est le plus grand collectionneur actuel de documents, autographes, manuscrits, lettres, objets liés à l'univers de Sade, en fait, nous avons travaillé sur le fonds qu'il possède. Et il en a racheté au fil des années, il s'est défait d'une partie de sa collection pour racheter le plus possible de lettres, y compris la famille. Donc elles n'y sont pas toutes. Mais il y a une chose fantastique, c'est que au début des années 2000, en 2003 je crois, Pierre Leroy a retrouvé plein de lettres, hein, de alors pas forcément à sa femme, mais c'est grâce à lui qu'on a retrouvé aussi toutes ces fameuses lettres de la belle-sœur, justement, qui prouvent, alors qu'on n'avait que des éléments peu fiables, qui prouvent la passion véritable qui existait entre Sade et sa belle-sœur. Donc nous avons travaillé avec Pierre Leroy sur ce qu'il possède, et il y a effectivement d'autres lettres qui ne sont pas dans sa collection, mais qu'on peut lire par ailleurs, il y a d'autres éditions.
Donc sa belle-sœur, c'est Anne Prosper de Launay. Il faut peut-être raconter un petit peu l'histoire. Alors là aussi c'est un trouble, hein, plus ou moins, entre Sade, sa femme, et sa belle-sœur.
Oui, alors bon, on peut revenir un petit peu sur le mariage de Sade. Bon, il rêvait de faire un mariage d'amour, il fait finalement un mariage parce que son père est très cupide et que sa belle-mère est très snob, en fait, d'une certaine façon, on peut résumer ça comme ça, puisque lui, le père, cherche une dot pour son fils, parce qu'il a lui-même des dettes. Et puis la fameuse présidente de Montreuil, eh ben elle veut une bourgeoisie qui a une particule parce qu'elle a acheté une charge, mais qui cherche à s'allier une maison aristocratique. Donc Sade est victime de ça, donc il épouse René Pélagie, qui n'est pas une vilaine femme, mais bon, qui est même assez bien éduquée, mais qui lui plaît pas, et en plus il était fiancé à une femme qu'il aimait. Donc très vite, ce mariage se met à être une épreuve pour René Pélagie, mais justement comme...
Parce que Sade a une double vie, du coup, très rapidement.
Parce que très vite, les phrases commencent, je sais pas, quelques mois après son mariage, à l'affaire de la rue Mouffetard, Jeanne Testor, c'est quelques mois plus tard. Et donc, elle l'aime, en fait, c'est ça. Elle l'aime vraiment d'amour, et puis il l'a initié, la sexualité, et puis elle est d'une certaine complaisance avec lui, bon, et finalement, elle sera toute sa vie dans une position à la fois sacrificielle et héroïque. Parce qu'elle a une personnalité très curieuse, elle est à la fois soumise, elle fait tout ce qu'il veut, bon, lui est très égoïste, il lui demande des tas de choses, il lui fait subir des tas de choses. Pas physiquement, hein, mais je veux dire moralement. Il a déjà toutes ses affaires judiciaires. Et il se fait quand même emprisonner 5 fois en moins de 15 ans pour des affaires de mœurs ou incarcéré pour dette, etc. À chaque fois, elle le défend, parce qu'il y a un combat évidemment avec sa mère aussi. Elle le défend contre sa mère, qui elle veut à chaque fois le faire incarcérer ou en tout cas régler ses problèmes pour pas trop que ces scandales jaillissent sur la famille. Et donc elle est à la fois comme ça soumise dans l'oblation, et en même temps, à chaque fois qu'il va être dans les pires situations, elle va se montrer d'un héroïsme et d'un courage absolument incroyable. Donc il y a ce côté double chez elle que je trouve assez sympathique, en fait.
Et alors Anne Prosper, sa sœur.
Alors Anne Prosper, on croyait toujours qu'il avait en fait rencontré Anne Prosper, en fait qu'il avait emmené au château de la Coste un certain hiver, sa belle-sœur, mais en fait, on s'est aperçu, justement, grâce aux lettres trouvées, qu'en fait, il l'a connue dès 1769, donc 3-4 ans avant. C'est une jeune femme, alors elle très, très jolie, assez vive, assez déliée, assez coquine, paraît-il. Et donc, il l'a emmenée avec elle et sa femme au château de la Coste. Elle a d'abord fait la conquête de son oncle, le fameux libertin qu'il avait, l'abbé de Sade, qu'il avait éduqué dans son enfance, et puis en fait, voilà, il a dépucelé tout ça sous les yeux évidemment de sa femme. C'était la fameuse époque où il montait des pièces de théâtre sans arrêt au château de la Coste. Il lui faisait jouer des rôles dans des pièces où en fait elle jouait Anne Prosper le rôle de son épouse et sa femme jouait les rôles d'une comparse et tout. Bon, jusqu'aux ennuis, si vous voulez, qui les font s'échapper ensemble.
Donc c'était tout ça pour le bon plaisir du marquis de Sade ou pour leur plaisir à tous les deux?
Non, parce que je pense qu'Anne Prosper, d'après ce qu'on a lu, il y a des lettres absolument incroyables. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je peux en lire un extrait.
Allez-y. Si vous pouvez l'attraper et qu'il n'est pas trop loin dans votre sac.
Voilà, parce que cette lettre capitale qui a été retrouvée de 1769, donc Anne Prosper lui dit « Je jure à monsieur le marquis de Sade, mon amant, de n'être jamais qu'à lui, de ne ni me marier ni me donner à d'autres, de lui être fidèlement attaché, tant que le sang dont je me sers pour sceller ce serment coulera dans mes veines. Je lui fais le sacrifice de ma vie, de mon amour et de mes sentiments avec la même ardeur que je lui ai fait celle de ma virginité, et je finis ce serment par lui jurer que si d'ici à un an je ne suis pas chanoinesse, et par cet état que je n'embrasse que pour être libre de vivre avec lui et de lui consacrer tout, je lui jure, dis-je, que si ce n'est pas de le suivre à Venise, où il veut me mener, d'y vivre éternellement avec lui comme sa femme. Je lui permets en outre de faire tout usage qu'il voudra contre moi du discernement, si j'ose enfreindre la moindre clause par ma volonté ou mon inconscience. Bah, c'est quand même signé de son sang. Ouais. Donc, grande passion.
Donc, c'est le grand amour, finalement, de Sade. Alors, il faut revenir un petit peu à René Pélagie, qui est la destinataire des lettres que vous avez donc éditées, puis parler de ces lettres. Alors, c'est beaucoup des demandes, mais aussi des récriminations, parfois même un peu des insultes. Bon, on va dire qu'il est en prison, c'est pas la situation la plus favorable pour écrire de manière détendue. Mais enfin, il y en a quand même qui sont très durs, des lettres à sa femme René Pélagie.
Oui, alors ça commence, en fait, il est complètement fou au début de sa correspondance, parce qu'en fait, il a été mis au donjon de Vincennes, mais en fait, il est complètement au secret. C'est-à-dire qu'il peut voir personne, il a aucun contact avec quiconque, et il sait absolument pas quand il va sortir. Et en fait, la grande cause de sa plus grande fureur, en fait, c'est de jamais savoir quand il va sortir. Et en fait, ça dure, ça s'éternise pendant des années.
Il lui fait des remarques sur son style.
Alors bon, c'est vrai qu'avec sa femme, c'était drôle parce que avant de venir à cette émission, je me suis un petit peu replongé comme ça dans les lettres pour me remettre un peu la tonalité en tête, et je me disais bon. Avec tout ce qu'on dit aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'arrête pas de transférer les mœurs, en fait, d'aujourd'hui sur les mœurs du passé, ce qui est absurde, mais en fait, c'est ce qu'on fait. Et quand on parle du féminisme aussi, de toutes ces histoires avec les féministes attaquent Sade. Alors, je me disais, mais c'est drôle, parce qu'en fait, aujourd'hui, on dirait que Sade, c'est une sorte de pervers narcissique, parce qu'il a une emprise, en fait, sur sa femme, qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, il ne cesse de l'amadouer quand il a besoin d'elle, et puis dès qu'il se sent mieux ou quoi, il l'insulte.
Ah oui, c'est pas très gentil, ça, quand même.
Alors en fait, il y a aussi cette conscience, si vous voulez, d'avoir été malheureux quand même dans sa vie, dans son mariage. Il y a une forme comme ça de conscience que finalement ça a été une mésalliance, et donc il la traite plus bas que terre parfois. Mais il a constamment besoin d'elle parce qu'elle est sa source d'approvisionnement de tout ce dont il a besoin en prison. Il a besoin d'énormément de choses. Et là, il veut absolument pas céder sur son train de vie en prison. Et à l'époque, en prison. On pouvait aménager sa cellule avec des meubles, des tas de choses. Enfin, c'est pas du tout comme les prisons d'aujourd'hui. Hein. Et donc, il a besoin de continuer à vivre sur ce pied. Et donc, il a besoin de sa femme, qu'elle lui apporte des livres, qu'elle lui apporte des tas de choses, des nourritures.
Du coup, c'est encore plus terrible vis-à-vis d'elle.
Oui, mais enfin, elle se bat aussi pour le voir. Elle veut tout le temps le voir. Elle en a besoin. Elle a toujours fait des démarches pour finalement, à chaque fois qu'il était mis en prison ou que ce soit, de pouvoir le voir. Alors il y a cette alternance effectivement d'insultes. Il lui reproche d'avoir un style plat. Il lui reproche de lui dire des platitudes. Et puis parfois il change de ton. Enfin, mais les lettres sont bouleversantes parce que finalement on sent quand même une complicité entre eux. Qui est très forte. Finalement, elle est son seul lien avec l'extérieur. Il ne reçoit aucune visite d'aucune autre personne.
Il l'appelle parfois son âme, son ange ou sa petite poularde.
Oui, tout à fait. Et puis, il a même des métaphores poétiques beaucoup plus belles dans certaines lettres qui sont tout à fait des morceaux de rhétorique sarcastique, en fait, mais qui sont... Et en fait, il continue... Enfin, si vous voulez, ces lettres sont... Comment dire? Elles sont très intéressantes. Pas seulement parce qu'elles sont adressées à cette femme qui est son seul lien, elles sont fantastiques parce que finalement on se rend compte que même en prison, Sade est un caractère indomptable et que finalement il est jamais victimisé en fait. Il continue à avoir cette espèce de souveraineté du moi qui est assez forte. Et après tout, on pourrait se dire, mais finalement, René Pélagie, certes, le divorce n'a été institué qu'en 1792, mais elle aurait pu, finalement, ce qu'elle entreprend en 1790, elle aurait pu l'entreprendre plus tôt, elle aurait pu vouloir se séparer de lui, tout ça. Non, jamais.
Enfin, il y a un côté sacrificiel aussi chez elle.
Oui, c'est ça. Il y a à la fois ce côté sacrificiel et héroïque, et il y a ce... Et finalement, elle ne demandera à être séparée de lui que quand il sortira, vraiment.
Une fois qu'elle aura accompli son devoir, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire de le
sortir
de prison.
Oui, c'est ça. C'est une femme de devoir, c'est une femme de vertu. Elle a été élevée, quand il l'a connue, c'était une oie blanche qui était confite en dévotion. Elle pense sans doute que c'est son devoir. Finalement, les enfants, tout ça là-dedans, c'est pas tellement... moins important.
Alors, elle envoie des livres aussi, ce qui, du coup, nous informe sur ce que lisait Sade en prison. Sade qui est un obsédé textuel, autant que sexuel, écrivez-vous en commentaire.
Oui, il semblerait qu'il ait deux besoins principaux en prison. C'est d'une part la lecture et deuxièmement pouvoir sortir, faire ses promenades dans l'enceinte de la prison. Ouais. Et effectivement, par les listes d'ouvrages qu'il lui réclame, ça va de Restif à Voltaire, en passant par Diderot, Les Voyageurs, etc. En fait, il a besoin de lire énormément de choses. C'est très, très éclectique, très varié, très presque encyclopédique, en fait.
Il y a du Fielding, d'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, hein, évidemment, tous les grands
plus les gazettes, l'époque. Plus être au courant des nouvelles, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même en prison qu'il va forger son œuvre, quoi.
Oui. Et puis alors, son œuvre, c'est aussi sa femme qui va la copier. Par exemple, Aline Valcourt sera mise en forme par René Pélagie. Ça aussi, c'est un acte d'amour assez beau.
Oui, parce qu'elle doit lire quand même des choses qui heurtent profondément sa morale religieuse et tous ses principes, mais bon, elle le fait avec une certaine abnégation.
Et puis le plus d'abnégation, c'est peut-être quand elle va fabriquer des objets pour qu'il se satisfasse seul sexuellement. Alors il va rue du Faubourg Saint-Antoine, où il est obligé de donner des explications très intimes pour faire fabriquer des objets en bois, type godemichet, etc., etc. Là aussi, grande abnégation quand même, hein, de René Pélagie.
Oui, abnégation, mais je trouve aussi que c'est à côté... Alors évidemment, elle se fait, tout le monde la raille, les colibés des menuisiers, etc., du Faubourg Saint-Antoine, mais en même temps, il y a c'est aussi une preuve comme ça de complicité, de tendresse, pourquoi pas. Et puis il y a, bon, mais ça fait partie aussi du côté obsessionnel de Sade, c'est qu'effectivement, il demande des choses extrêmement précises. À chaque fois, il y a toute une sorte d'obsessionnalité, des mesures des choses, et pas seulement des godemichés, des cahiers dont il a besoin, des tissus dont il a besoin. Il faut toujours que ça mesure tant. Ça, c'est un truc qu'on découvre chez Sade, qu'on ne connaît pas forcément, mais en même temps, il y a cette passion qu'on voit bien dans les 120 journées, la numérotation, la liste, cette obsessionnalité du chiffré.
Voilà, et tout ça, on peut le découvrir donc dans les 50 lettres du marquis de Sade à sa femme que vous avez édité chez Flammarion en 2009. Par ailleurs, Cécile Guilbert, je signale que les deux volumes de vos recueils d'essais et d'articles sans entrave et sans temps mort sont disponibles. C'est aux éditions Grasset.